milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, 7 milliards de voisins, bienvenue dans un monde où smartphones dernier cri, applis et même téléphones mobiles tout simples sont en train de changer nos vies. Vous avez peut-être un portable dans la poche, plusieurs même, qui sait, chacun avec sa carte SIM. Aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique connectée, déjà envahie par les mobiles, près de 550 millions de personnes sur le continent possèdent leur propre téléphone. C'est presque la moitié de la population africaine. Le continent est aussi vu comme la dernière frontière pour Internet, un territoire à conquérir, convoité par les géants Facebook, Google, qui tentent d'y faire planer leurs satellites. On ne compte plus les applications lancées par de jeunes entrepreneurs du continent pour révolutionner l'éducation, les services bancaires, la santé, l'agriculture. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette révolution numérique? Comment le continent peut-il en tirer parti? Demain, l'Afrique connectée à 100%, est-ce possible ou bien est-ce un mirage quand on connaît les prix de l'Internet et la qualité du réseau souvent précaire? Avec nous pour en parler, Dieudonné Okala Sossami, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénégalais d'origine, vous avez cofondé une start-up qui recueille des données météo et en fait qui conseille les agriculteurs africains, Itumba. C'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, Itumba ?
Très bien. Merci de nous avoir invités. Et je tiens à rectifier quelque chose. Je ne suis pas sénégalais, mais gabonais.
Franco-gabonais,
même si j'ai de la famille au Sénégal. Mais bon, c'est pareil, c'est l'Afrique.
Et Itumba, alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, Itumba veut dire le E pour l'électronique, Tumba en langue swahili qui veut dire bourgeon, donc bourgeon électronique.
Bourgeon électronique. Ouais. Julie Wono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du programme Afrique pour l'ONG Internet sans frontières.
Oui, responsable du bureau Afrique, plus précisément.
Du bureau Afrique. Alexandre Despalières, bonjour.
Bonjour, voisine, bonjour Charlie.
Co-fondateur de la société K3 OPS qui crée en fait de l'énergie renouvelable à partir des ondes électromagnétiques. Les voisins, les voisines, on attend bien sûr vos appels, vos témoignages, vos points de vue. Qu'ont changé ces nouvelles technologies dans votre quotidien? Que vous apportent-elles? À quoi vous sert votre téléphone, à part évidemment à appeler? Justement, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et puis, vous pouvez bien sûr nous écrire sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous réagissez d'ailleurs dès maintenant sur Facebook, les voisins très enthousiastes. Il nous écrit de Yaoundé. J'ai Facebook, WhatsApp, Google, tout ça pour 100 francs CFA par jour, seulement 15 centimes d'euros. La connexion est rapide et stable. Ici, sur ce point, je ne me plains pas. Le Cameroun a fait un pas de géant. Elie à Kinshasa, lui aussi, est emballé. Il nous dit « Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous n'avons plus besoin de la télévision. Et puis, on partage aussi des informations en temps réel avec ceux qui sont en province. » Guillaume à Goma, en République démocratique du Congo, nous dit « Depuis quelques temps, les Congolais se feraient un chemin dans le monde de la Wi-Fi, du powerbank, des megabytes, publier, liker, tout ça c'est un vocabulaire nouveau, un must de la new generation. » Mais alors, il nuance quand même, et d'ailleurs il n'est pas le seul. Je le cite « L'Afrique, en particulier la RDC, a encore des défis à relever. Le pouvoir d'achat est trop faible pour que tout le monde puisse s'acheter un smartphone. Les infrastructures pour la connexion sont quasi inexistantes. La fibre optique aussi est à la traîne. Et puis, on a Massaman à Bamako qui est plutôt d'accord. Il nous dit « L'accès à Internet coûte cher. Sans vouloir être pessimiste, l'Afrique 100% connectée, ce n'est vraiment pas pour demain. »
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Dieudonné Okala Sossami, vous êtes un acteur, un vrai de cette Afrique connectée dont on parle aujourd'hui. Vous avez lancé une appli pour aider les agriculteurs. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là ?
Alors, nous sommes partis d'un constat très simple. C'est une question que tout le monde se pose, que tout le monde, un constat que l'on observe. Pourquoi est-ce que depuis des années, les agriculteurs africains n'arrivent pas à produire assez pour vivre eux-mêmes d'abord ? Et aussi pour nourrir leurs concitoyens. Alors, la réponse à cette question, elle a été très simple. C'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les pratiques agricoles qui sont utilisées dans le continent sont normatives. C'est-à-dire qu'ils ont des fiches produits, fiches coton, fiches maïs, qui leur disent ce qu'il faut faire, à tel moment, comment il faut le faire, etc. Et vous savez très bien, avec le changement climatique, tout ceci n'est plus valable, ne marche plus. puisqu'il pleut aujourd'hui, demain il ne pleut pas, il fait 6 mois, 4 mois, il ne pleut plus.
Le
climat est instable. Alors il faut trouver une autre approche, beaucoup plus intelligente, qui permet aux gens d'être résilients au changement climatique, donc d'adapter les pratiques en fonction de ce qu'ils ont fait, mais aussi de la météo. D'où l'idée d'Itumba. C'est de se dire, aujourd'hui, en Afrique comme en Occident, il y a des innovations en termes de recherche agronomique. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc, les modèles agronomiques sont des modèles mathématiques qui permettent de calculer en temps réel les besoins de la plante, ce qu'on appelle les différents stress hydriques ou azotés, etc. Alors, si on combine ces innovations avec les nouvelles technologies de l'information, et Dieu merci, en Afrique, le téléphone portable se pénètre partout, on peut donc apporter à l'agriculteur la bonne information dont il a besoin pour mieux produire.
L'idée, c'est que vous installez des capteurs dans les champs de ces agriculteurs et qu'ensuite, ils peuvent avoir, grâce à cela, des données sur leur téléphone mobile, sur l'humidité, par exemple, des sols, qui leur permettent ensuite de savoir quoi faire.
Exactement. Nous installons des capteurs, mais nous pouvons aussi utiliser des données satellites qu'on appelle la télédétection. Et nous transformons, l'idée c'est de transformer la donnée qui vient du terrain en information utile. Non seulement utile, une information pertinente qui doit être non seulement utile, mais utilisable et utilisée.
Et alors qu'est-ce que ça coûte aux agriculteurs qui reçoivent ces SMS et ces informations, ces conseils ?
Ça coûte quasiment rien du tout parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ces agriculteurs, ils utilisent leur téléphone pour la téléphonie, l'appel classique, mais aussi pour les SMS. Donc ça coûtera quasiment rien du tout si ce n'est le prix d'un SMS.
Très bien. Alors nous sommes en ligne avec Serge Seri, directeur de la publication du magazine panafricain Réseau Télécom Network. Serge Seri qui organise le salon Africa Telecom People au mois d'octobre sur le thème des nouvelles technologies ou comment l'Afrique se prépare au tout connecté. Bonjour Serge Seri.
Bonjour.
Alors pourquoi vous voulez consacrer un salon à cette thématique ?
Alors, comme vous l'avez rappelé donc, dans vos propos liminaires, aujourd'hui, selon certaines études, d'ici 2020, la moitié de la population mondiale sera connectée à Internet. Et en Afrique, d'ici 2020, ce sera à peu près 600 millions de personnes. Et nous voulons donc que l'Afrique, qui a aussi... des exemples, surtout le Rwanda par exemple, qui va construire les premiers aéroports pour des drones, et le Rwanda qui distribue des médicaments dans des zones reculées grâce aux drones. Donc il y a des exemples en Afrique dans le domaine de tout connecté. Et donc nous voulons donc que les observateurs des télécommunications qui pensent que l'Afrique n'a pas assez montré donc sa part d'inventivité, qu'ils puissent savoir qu'il y a des choses qui se font en Afrique.
Alors, quel intérêt peuvent y trouver les Africains à la connexion de leur continent ?
Alors, il y a beaucoup d'intérêt. Déjà, il faut savoir que dans le domaine logistique, grâce à la connectivité, on peut facilement permettre aux Africains de pouvoir donc déplacer des colis, de pouvoir participer donc à l'économie. Et il y a aussi dans d'autres domaines, tels que dans le domaine de la santé, donc j'ai parlé tout à l'heure de distribuer des médicaments dans des zones reculées. Il y a encore d'autres domaines tels que l'agriculture, et je suis contente que vous ayez invité Dieudonné Okala, qui grâce à ton application permet donc aux Africains de pouvoir doper donc leur production. Et voilà.
C'est un des exemples de l'utilité d'Internet et même du téléphone mobile pour l'Afrique. Merci Serge Seri. Alors vous organisez le salon Africa Telecom People à Abidjan dans 2 semaines, c'est ça ?
Le 6 et 7 octobre. C'est ça, le 6 et 7 octobre à Abidjan. Et donc il y aura beaucoup de personnes qui viendront partager leur leur expérience. Donc, il y aura aussi des personnes personnes qui viendront de la France et qui viendront aussi pour échanger avec des Africains, de sorte que grâce à la connectivité, l'Afrique se développe encore plus.
Mmh. Merci Serge Seri. Julie Owono, quels sont les chiffres de cette Afrique connectée ? Pour l'instant, on est plus équipé en mobile, tout simple, qu'en smartphone.
Oui, alors effectivement, le continent africain, déjà, et le continent, il faut le dire, le taux de pénétration à Internet, en général, est un des plus faibles aujourd'hui. On parle à peu près de 20% et des poussières de % en 2015. C'est bas, mais en même temps, c'est un taux qui évolue, c'est le taux qui évolue le plus rapidement au monde. Et il évolue le plus rapidement au monde, notamment grâce au taux de pénétration de l'Internet mobile, d'après les chiffres que j'ai en mémoire, serait de 70% de pénétration du mobile en Afrique. Donc, c'est-à-dire que presque tout le monde a un mobile. Et dans certains pays, des personnes peuvent avoir 2-3 mobiles pour une seule personne.
Beaucoup de cartes SIM aussi.
Beaucoup de cartes SIM. C'est d'ailleurs sur ce marché-là qu'a été développé le modèle spécial des mobiles avec 1, 2 ou 3 SIM. Donc, effectivement, le taux de pénétration mobile booste la connectivité Internet en Afrique. Mais néanmoins, moi, la question que je me pose quand j'entends parler de ces services-là, qui sont effectivement très utiles, qui sont le continent africain est là où il y a le plus de choses, il y a le plus de besoins. Donc, il y a des ingénieurs qui peuvent y répondre, ceux qui proposent des services comme ceux sur lesquels vous travaillez peuvent y répondre. Mais la question est de savoir quels sont les débouchés véritables de ces produits-là. C'est-à-dire que quand on parle d'application, on parle évidemment de connectivité. Or, la question de la connectivité en Afrique, elle est problématique à double titre. Le premier titre, c'est qu'il y a un problème d'infrastructure. Vous le disiez en introduction, c'est aujourd'hui l'Eldorado, tout le monde se jette. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui y est fait. C'est encore un champ vierge. Il y a quelques semaines, Facebook, le représentant de Facebook qui était, pour vendre son Internet gratuit et vendre son satellite qui va fournir Internet. La même chose par Google. Ils ont imaginé de nombreuses infrastructures pour essayer de fournir Internet aux populations en Afrique. Mais ça, nous pensons à Internet sans frontières que ça ne devrait pas relever de l'initiative privée. Ça devrait relever des autorités publiques. C'est à elles d'investir dans les infrastructures nécessaire pour la connectivité. Je le disais déjà dans une émission précédente de 7 milliards de voisins, que la question des IXP, qui sont des infrastructures qui permettent aux opérateurs de s'entendre mutualiser le transport de données Internet, de données mobiles ou filaires, n'existe pas. Il n'y a pas ce type d'entente dans la plupart des pays en Afrique, et notamment francophones. Dans une ville comme Paris, simplement, il y a des centaines de points IXP. Mmh. C'est ça qui permet de faire baisser les coûts d'interconnexion, c'est-à-dire quand on appelle d'un opérateur à un autre, ou bien même quand on appelle d'un pays à un autre. Les frais de roaming n'existent plus dans l'Union européenne aujourd'hui. C'est grâce à ces infrastructures. Ces infrastructures n'existent pas en Afrique. Il n'y en a pas. La deuxième chose, et c'est là où je pense qu'on fera le lien avec l'actualité, quand on coupe le réseau Internet, comme c'est le cas aujourd'hui de manière presque systématique dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, évidemment qu'on ne peut plus avoir accès à des applications comme celles qui sont développées. Donc c'est vraiment ces questions-là.
Ce sont des limites, effectivement, pour l'Afrique connectée. On en reparlera tout à l'heure. Nous sommes en ligne avec Stuart Campo, responsable du déploiement des innovations à l'UNICEF. Bonjour Stuart Campo.
Bonjour.
Alors, à l'UNICEF, vous considérez les téléphones portables comme de vrais outils au service des citoyens. Qu'est-ce que vous développez avec la téléphonie mobile ?
Oui, en tant que UNICEF, on voit l'innovation et surtout la téléphonie mobile comme un outil de base pour renforcer les services dans les différents secteurs dont on s'occupe en tant que UNICEF, c'est-à-dire la secteur santé, éducation, la protection de l'enfant, etc. Et depuis quelques années, UNICEF travaille sur la mise en place des plateformes sources ouvertes pour faciliter la conception des outils par les gouvernements avec leurs partenaires pour exploiter la téléphonie mobile pour faire quelques fonctions de base. D'abord, on vise de faciliter une meilleure collecte de données et gestion des données depuis le niveau plus bas au niveau central. Donc, par exemple, concrète, en RCA, en Centrafrique, on utilise la téléphonie mobile avec un système qui s'appelle EduTrack pour faciliter la connexion entre les enseignants et les décideurs au niveau du ministère à Bangui. Les rapports qui se faisaient avant avec les copies, les formulaires en papier, et qui pouvaient prendre 4 mois pour arriver au niveau central, peuvent maintenant être envoyés par SMS et arriver dans 4 minutes concrètes, quoi. Un autre exemplaire concerne l'utilisation de le téléphone mobile avec les mères pour suivi, pour suivre un peu la, la grossesse et après l'accouchement, pour faciliter les messages de rappel pour les visites aux cliniques.
Oui, les jeunes femmes enceintes.
Des informations critiques, voilà, pour que les mères tiennent les informations elles-mêmes à travers le téléphone mobile dont elles disposent.
Par des SMS qu'elles reçoivent gratuitement.
Voilà, c'est ça. Donc, même si on voit la croissance de connectivité Internet sur le continent, c'est très important de garder en tête le fait que les populations les plus vulnérables, les populations reculées, ne disposent pas toujours à l'Internet. Donc, on doit garder un lien un peu plus base, comme SMS, pour qu'on les accède et pour qu'on les fasse entendre parmi tous les bruits qui se font à travers l'Internet aussi.
Grâce au téléphone portable, vous pouvez le faire. Il y a aussi un domaine dans lequel l'UNICEF se lance avec la téléphonie mobile, c'est l'enregistrement des naissances.
On travaille dans ce domaine et ça dépend du pays et évidemment des systèmes nationaux gérés par les gouvernements. Mais évidemment, la téléphonie mobile peut faciliter un meilleur transfert des données sur ce sujet, sur l'enregistrement de la naissance et par la suite sur la coordination des agents communautaires qui gèrent ce genre de service. Donc on a plusieurs exemples dans l'Afrique de l'Ouest où on utilise la téléphonie mobile pour suivre les stocks essentiels pour le service de l'enregistrement de la naissance. Et en Ouganda, on utilise carrément un système mobile pour l'enregistrement direct. Donc, les agents utilisent leur téléphone pour enregistrer les détails d'un enfant au moment de la naissance. Et ces détails sont transférés dans une manière sécurisée tout de suite au niveau central pour être enregistrés dans la base de données. Par la suite, l'enfant existe, ce qui est essentiel que l'enfant ait une identité officielle pour accéder aux différents services de base. Et pour UNICEF, c'est une des priorités.
Et tout ça grâce au téléphone portable. Merci Stuart Campo, responsable des programmes d'innovation à l'UNICEF. Alors on accueille tout de suite un auditeur. Hein, les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et là, on accueille Fataou à Parakou, au Bénin. Bonjour Fataou.
Oui, allô, bonjour Charlie.
Bienvenue. Alors pour vous, qu'a changé Internet dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours?
Okay, merci beaucoup, Charlie. Oui, moi, depuis que j'ai pris connaissance de ce qu'est l'Internet et que j'ai commencé par l'utiliser, mais j'ai constaté que mes coûts de communication se sont amoindrir. En effet, les communications téléphoniques et des envois de courriers par poste ou par compagnie de transport et consorts ont cédé place à des communications par Facebook, mail et autres applications de communication dans ma vie.
Donc c'est plus rapide.
Oui. Et j'ai donc désormais, j'ai de facilité donc à communiquer désormais sur le plan professionnel que sur le plan privé, à moindre coût, avec beaucoup de sécurité et bien sûr beaucoup de rapidité.
Donc vous voyez, vous, beaucoup d'avantages hein, à Internet, dans votre quotidien. Merci Fataou pour votre témoignage. Vous restez avec nous, Julie Ouono, Dieudonné Okala Saoussami, Alexandre Despalières, pour parler de l'Afrique 2.0, un concept séduisant hein, sur le papier. Mais évidemment, on sait aussi que rôde tous les investisseurs qui veulent connecter l'Afrique et installer le haut débit dans des pays où les voisins, hein, vous remettez souvent en cause la qualité du réseau. Vous nous parlez aussi des prix beaucoup trop élevé d'Internet. Alors l'Afrique connectée, c'est pour quand? On est en droit de se poser la question. Les voisins, vous nous appelez au 33 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes.
À l'occasion de l'heure de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a 20 ans, personne ne misait sur l'essor des téléphones mobiles en Afrique. Aujourd'hui, ils ont littéralement bouleversé tous les secteurs, se sont introduits partout, sont devenus l'objet personnel par excellence, à la fois écran de télé, guichet de banque, cabinet de médecin. Avec ou sans internet, ces téléphones servent à bien plus qu'à appeler et on les dit déjà moteur d'emploi, de croissance. Mais ne fait-on pas peser trop d'espoir hein, sur un objet qui reste encore difficile d'accès pour les habitants des campagnes, hein, loin de tout réseau? Quels défis se posent maintenant à l'Afrique connectée à débit réduit pour que les nouvelles technologies profitent à tout le monde sur le continent? On en parle avec Julie Wono de l'ONG Internet sans frontières. Dieudonné Okalas Osami qui a lancé un service de météo connecté au service d'agriculteurs africains. Alexandre Despalières, cofondateur de K3OPS, hein, c'est difficile à dire, qui crée de l'électricité à partir d'ondes. Et nous sommes en ligne avec un entrepreneur qui lui aussi a misé sur Internet. Il a lancé sa propre application. Bonjour Cheikh Oumar Bagayoko.
Bonjour.
Alors vous êtes basé à Bamako, vous êtes médecin, informaticien, vous avez remporté le premier prix RFI Challenge App Afrique pour donc une appli que vous avez lancée dans la santé. L'idée c'est de connecter la brousse aux grandes villes, vous nous expliquez ?
Exact. Alors là, pour un peu rectifier, donc l'application a été développée dans le cadre du réseau RAFT, hein, donc c'est pas une entreprise privée. Mm-hmm. Donc c'est une application qu'on appelle Bougou. Donc Bougou, ça veut dire aider l'autre en langue sorin ou djerma. Mm-hmm. Donc le but est de permettre à n'importe quel professionnel santé isolé qui se trouve à l'intérieur du pays de demander un avis expert à distance aux experts qui restent dans la plupart des cas dans les capitales africaines. Hein. Si je prends l'exemple de l'Afrique subsaharienne, il y a plus de 80-90% des spécialistes qui sont concentrés dans la capitale. Alors le but de l'application, c'est comment donner accès vraiment aux patients qui sont dans les zones isolées et qui sont souvent aidés juste par un infirmier, une sage-femme ou un médecin généraliste, sans les faire voyager, plutôt essayer de faire voyager l'expertise. Donc l'application a pour but principal cela.
Il y a aussi une application qui permet de soigner les malades. Alors en Syrie, hein, à 10 000 km de distance, ce sont des médecins syriens exilés qui téléguident des opérations chirurgicales, hein, notamment sur des blessés de guerre. C'est un peu la même idée en fait. L'idée c'est de connecter les médecins, les spécialistes avec des personnes loin de ces connaissances-là, ou en tout cas là où il n'y a pas de médecins.
Exactement, c'est un peu dans la même idée. Bougou permet également de faire... par exemple, de connecter une échographie obstétricale à distance pour montrer à distance à un échographiste l'état d'une femme enceinte. L'échographiste à distance serait à même de dire à au soignant dans la brousse, attention, vous ne pouvez pas soigner cette femme, il faut l'évacuer, ou va lui dire peut-être la conduite à tenir. Donc c'est un peu la même chose comme ce qui se passe en Syrie. Le but, c'est vraiment d'aider les professionnels de la santé en situation d'isolement à mieux prendre en charge les patients sans les faire déplacer.
Et quelle forme, justement, prend l'échange entre le personnel de santé en brousse et les médecins spécialistes dans la capitale? Comment est-ce qu'ils échangent concrètement?
Ben, concrètement, en fait, c'est comme une sorte en fait, de forum sécurisé. Donc, il fonctionnait dans un premier temps sur ordinateur, mais qu'on a mis sur téléphone portable. Alors, le professionnel de la santé est identifié, doit s'inscrire, qu'il soit expert ou pas. Donc, le demandeur, une fois qu'il a un cas, il fait la description de ce cas dans ce forum. Il met la documentation. Ça peut être l'image d'une peau pour les cas de dermatose. Ça peut être un cliché échographique. Il envoie. Lorsqu'il envoie, l'expert est avisé via son téléphone, soit par mail, soit par un SMS, pour lui dire qu'un cas est arrivé. Alors, il va se connecter à la plateforme Bougou et puis il va donner son avis expert à distance.
Et pour ça, donc, il faut avoir accès à Internet quand même, hein ? Ce qui peut être compliqué en plus.
Oui, il faut avoir accès à l'Internet, mais nous avons prévu, en fait, on peut enregistrer, en fait... ces cas en offline sur le téléphone portable. Une fois qu'on rentre dans une zone qui est couverte par Internet, on envoie les cas. L'autre chose qu'on est en train de réfléchir actuellement, c'est de pouvoir faire passer les messages qui sont sous forme de texte, qui n'ont pas d'image, par SMS.
Ah, des messages
SMS, par
SMS. D'accord, des messages SMS.
Exactement, par message SMS. Donc, il faut toujours essayer de faire adapter la technologie au contexte. Donc, c'est ce qui est essentiel.
Merci, Cheikh Oumar Bagayoko, de nous avoir présenté votre application qui permet de reconnecter donc, des patients en brousse et des médecins en ville. L'idée, évidemment, c'est de rendre équitable l'accès à la santé. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie Ouono ? Comment vous réagissez ?
Non, mais l'application, évidemment, est excellente. J'écoutais également récemment sur une autre antenne le cas d'un entrepreneur tchadien, médecin également, qui avait aussi créé une plateforme à peu près similaire, mais sur un autre type de problème de santé. Non, je trouve que toutes ces initiatives sont évidemment formidables, mais je pense que le lien entre toutes celles-ci, c'est que le soutien des autorités doit être quasi inexistant. Or, pour que se développe ce qu'on appelle, on dit en anglais, des champions, donc des champions de cet entrepreneuriat-là africain, il faut évidemment un soutien étatique, des règles qui profitent de manière équitable à tous les acteurs de ce secteur-là, c'est-à-dire aussi bien aux gros acteurs, donc les opérateurs, ceux qui ont beaucoup d'argent, que les petits acteurs, ces entrepreneurs-là. Par exemple, pour négocier pour que... le jeune homme expliquait que certaines des informations allaient pouvoir passer par SMS. Je suppose que pour cela, il faut aller discuter avec les opérateurs, négocier des tarifs pas trop chers pour que les personnes puissent envoyer un nombre important de SMS. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, sur le marché... En tout cas, ce que nous observons sur le marché des télécoms et d'Internet en Afrique, c'est que les règles de concurrence ne sont peut-être pas aussi strictes qu'elles pourraient l'être ailleurs. Il y a effectivement des gros groupes qui profitent beaucoup plus de cet Eldorado qu'est le marché africain, parce qu'elles ont plus de moyens. Ces entreprises, ces entrepreneurs-là ont certainement beaucoup moins de moyens que d'autres gros noms que je ne citerai évidemment pas. Ça, c'est des choses sur lesquelles il faudrait réguler, que la main de l'État régule ces choses-là. La première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la question de quand il n'y a pas Internet, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, là, il y a une solution qui est trouvée, mais il y a aussi des moments où on coupe également toutes les télécommunications, y compris les SMS. Donc, comment est-ce qu'on veut développer une économie 100% connectée, une économie numérique, quand on prive la matière première de cette économie-là ?
Alors, on nous écrit sur Facebook. Sur Facebook, on a Pascal à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui dit « Un peu amer, pour être 100% connecté, il faut avoir de l'énergie. Dommage, nous n'en avons pas. » Alexandre Despalières, pour vous, vous qui travaillez justement dans l'énergie renouvelable, si on peut dire, il ne faut pas non plus dresser un tableau trop positif de la situation de cette Afrique qui serait bientôt 100% connectée.
Non, alors, en fait, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que des gens ont des solutions formidables. Les applications aident. La technologie est faite pour aider. Et là, on a l'impression, enfin en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un espèce de combat de grosses sociétés et de gros sous. Et on essaie d'envahir un marché. Tu connais l'histoire de ces câbles qui ont coûté 700 millions de dollars. On en est à la phase 2, je crois. En fait, le problème, c'est OK, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que les gens ont besoin ? Ils veulent pouvoir connecter, ils veulent pouvoir avoir le droit à l'information, c'est un peu son combat. Moi je suis un tout petit acteur. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose de prendre des ondes, alors différentes ondes, de les faire grimper pour pouvoir alimenter des téléphones. Est-ce que ça crée un réseau ? Eh bien en fait oui, parce que tous ces téléphones peuvent se connecter entre eux et créer un réseau. Et le tout s'empile. Alors, bien sûr, on est un peu gênant pour ces grands opérateurs, mais je pense qu'on peut faire... Il y a des choses à faire sans eux. Il n'y a pas que eux. Effectivement, les gouvernements doivent réagir, mais les grosses entreprises ont quand même financé beaucoup d'argent. 700 millions de dollars pour mettre des câbles. Mais après, ça s'arrête dans des grandes villes, tu vois, Abidjan...
Il y a quand même certains investissements.
Certains, oui.
Les voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et on accueille tout de suite un auditeur, Thierno, qui nous appelle de Mamou en Guinée. Bonjour Thierno.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire alors sur le sujet du jour ?
Alors nous, le réseau informatique est beaucoup plus accessible aujourd'hui en Guinée. Mais ce qui se passe dans notre travail, puisque nous sommes dans une organisation non gouvernementale, nous sommes amenés à communiquer avec des partenaires nationaux et internationaux. Et le plus souvent, le débit de connexion nous pénalise. puisque parfois on rate des délais de transmission des rapports ou bien de soumission à des appels à projets. Ça nous pénalise vraiment.
Ah oui, ça vous pénalise. Et alors, ça vous prend combien de temps, par exemple, parfois, pour envoyer rien qu'un email?
Parfois, on peut faire toute une journée sans pouvoir vraiment amener un email
une journée.
Avec une pièce jointe.
Oui, donc ça vous pénalise évidemment dans votre travail. Est-ce que dans votre vie personnelle, vous, par exemple, vous avez un smartphone?
Personnellement, non.
Non, et pourquoi?
Puisque je travaille surtout à l'ordinateur, puisque c'est le moyen qui me permet de traiter des dossiers et de les amener directement à travers le net.
D'accord. Alors, merci, Tierno, pour votre témoignage. On a également Lamri qui nous appelle de Cotonou, au Bénin. Bonjour, Lamri.
Ah, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que pensez-vous
alors,
du sujet
disais,
du jour?
Exactement. Je disais tantôt à l'antenne que l'Internet pour l'Afrique, c'est bon, mais c'est que ça ne profite pas à la grande partie. On est tous presque analphabètes, et puis c'est excessivement cher.
Vous caricaturez un peu, là, quand même. Vous-même, vous n'êtes pas analphabète.
Non, dites pas.
Bon, vous dites que, en fait, les Africains ne savent pas utiliser un smartphone. C'est ça que vous voulez nous dire?
60% ne savent pas utiliser.
Bon,
c'est déjà, donc il y a un
c'est
problème
un chiffre que vous donnez personnellement. Et il y a la question du coût aussi quand même pour les smartphones, parce que ça on n'en a pas
le
parlé,
coût,
mais en Guinée ça peut par exemple coûter entre 30 et 50 euros, j'imagine qu'au Bénin c'est à peu près dans les mêmes prix. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce coût-là?
Oh, mais je ne peux pas payer l'Internet plus cher que mon loyer, c'est pas bon.
Oui, c'est beaucoup trop cher. Merci Tierno pour votre témoignage. Et d'ailleurs, on a aussi Yann qui nous écrit sur Facebook. Yann qui est à Rio. Il dit « Je ne mange plus parce qu'il faut que j'achète le forfait Internet chaque jour. » Voilà.
Triste.
Donc c'est vraiment quand même très cher. Julie Wono, vous voulez réagir?
Oui, je voulais réagir sur la question du coût. Évidemment, il y a déjà une émission là-dessus. Beaucoup de gens le disent. C'est un des points du monde où Internet coûte le plus cher. Mais paradoxalement, c'est un des points du monde où il y a réellement... Enfin, le besoin est tellement énorme que certaines personnes sont prêtes à sacrifier certains besoins pour pouvoir se connecter à Internet. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Internet, il y a certains endroits où vous avez besoin d'une connexion pour faire certaines démarches d'identification, pour faire vos papiers, par exemple, ou bien pour accéder à certaines informations. Donc, aujourd'hui, l'Internet est presque considéré comme... C'est même pas qu'il est presque, c'est qu'il est considéré comme un droit, notamment par des instances comme l'Organisation des Nations Unies, qui récemment, au mois de juillet, a dit que les droits qui s'appliquent dans l'espace matériel doivent s'appliquer de la même manière, avec la même force, dans l'espace non matériel. Donc, effectivement, mettre un Internet cher aujourd'hui ou mettre un Internet de moins bonne qualité ou en tout cas ne pas faire en sorte qu'il soit de la meilleure qualité possible, c'est priver des millions de citoyens de droits fondamentaux. Et ça, c'est évidemment inadmissible. Et
évidemment, ils ont besoin aussi d'Internet pour leur travail. Dieudonné Okala Sosami, comment vous réagissez à cette question-là, à ce prix si élevé d'Internet?
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique a passé un gap, c'est-à-dire qu'on a sauté une étape. Les pays occidentaux ont commencé par la téléphonie filaire. L'Afrique est passée directement à la téléphonie mobile.
Sans câble, en fait.
Sans câble, voilà. Donc, c'est qu'il y a eu des investissements colossaux en un si peu de temps. Alors, il faut rentabiliser. Moi, je parle en tant que chef d'entreprise. Donc, il faut rentabiliser tout ça. Ce qui fait en sorte que, sans le soutien de gouvernants, comme disait Mme Renaud, pour essayer d'apporter ce supplément de souplesse au niveau du coût, les prix resteront toujours élevés. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise ces services-là, il faut se poser la question de leur utilité, de la pertinence. Parce que ce qui se passe aujourd'hui sur le continent, on essaie de réduire la dissémination de l'information. Et à quoi ça sert aujourd'hui de dire, par exemple, un agriculteur burkinabé ou béninois, que vous avez produit du maïs, vous, le coût du maïs aujourd'hui est de 200 francs CFA sans lui dire qu'il peut le lui acheter où il peut le déposer.
Il a besoin de ces informations-là.
Voilà. Il a besoin d'informations, mais il faut que cette information soit utile et utilisable. Voilà. Donc, toute la question, elle est là. Et il ne suffit pas de consommer, de consommer, de consommer, de consommer l'Internet, mais c'est de savoir pourquoi on consomme cet Internet Pour quelle utilité et pour quel objectif, pour quelle finalité?
Alors, en Guinée équatoriale, la téléphonie mobile connaît aussi, comme dans d'autres pays africains, un essor considérable depuis plus de 10 ans. Sur 1 million d'habitants, 600 000 possèdent aujourd'hui un téléphone portable, vous imaginez. Et l'État a mis sur pied un organe régulateur des télécommunications, ça s'appelle donc l'ORTEL, un partenariat public-privé, avec un plan choc adopté cette année pour baisser les prix des appels et puis aussi surtout les prix d'Internet. Avec donc l'idée de le rendre accessible à tous les équato-guinéens. Notre correspondant dans le pays, Fabien Essiane, a rencontré le directeur général d'ORTEL, Hermorenes Nzang Essono.
Le secteur des télécommunications, les gens ne vont pas remarquer les changements. Vous voyez, ça fait des années, et en Guinée équatoriale, tu n'avais pas le droit d'avoir l'Internet par téléphone. Ça fait des années, on voyait seulement la télévision guinéenne, camerounaise. Mais actuellement, tu as le crédit par téléphone. Tu te connectes directement par un hotspot que tu trouves dans la zone que tu es. Et maintenant, on voit tous les chaînes. Tu arrives au Cameroun, tu arrives au Canada, les mêmes chaînes que tu vois ici en Guinée qui passent en télévision digitale. La qualité est déjà bonne parce que tous les providers, ils ont la connexion, le contrat de la fibre optique. Leur vitesse est bien. C'est un changement très, très grand. Le seul travail qui reste, ce sont les prix. Les prix sont élevés. La technologie, ce n'est pas pour un groupe de personnes, c'est pour tout le monde. Actuellement, le ministère, ils sont en train de prendre les mesures, le plan choc, pour installer dans chaque village un système de communication local. Les jeunes qui habitent dans ces villages-là, ils sont les providers. C'est eux-mêmes qui fournissent les services Internet. L'État les finance, eux, ils installent les antennes pour donner les services Internet dans son village. Et ça permet que tous les habitants du pays aient les mêmes possibilités d'utilisation des services des télécommunications.
À l'heure actuelle, en Guinée équatoriale, pour une heure d'Internet sur son smartphone, il faut débourser 1,50€. Pour vous donner une comparaison, c'est 5 fois plus cher qu'au Cameroun voisin. Donc ça dépend des pays, les prix d'Internet, Julie Owono.
Ça dépend des pays et encore une fois, on en revient au problème initial, ça dépend de l'existence ou non au niveau local d'une véritable politique publique en faveur d'une plus grande connectivité, du plus grand nombre dans le pays dont on...
Il y a des pays africains, justement, où on a une politique publique...
Il y en a, bien sûr. Il n'y a qu'à voir où Facebook, Google, etc. vont s'installer. Là, vous aurez votre réponse. Pourquoi est-ce qu'il va au Nigeria et pas au Cameroun à côté? Pourquoi est-ce qu'il va en Afrique du Sud? Pourquoi est-ce qu'ils vont au Kenya? C'est pas au Kenya, il y a un gros plan. On peut critiquer, il y a beaucoup de choses à critiquer sur la question d'Internet. Mais au moins, il y a des lignes de crédit qui sont attribuées à ces questions, à la question de l'économie numérique. Ce qui n'existe pas dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, ce qui fait qu'il y a un peu un pis-aller et que chacun fait un peu ce qu'il veut. Et au final, c'est malheureusement le consommateur, en tout cas le citoyen, on les appelle citoyens, utilisateurs, qui est lésé.
Dieudonné Okala Sosami, comment vous réagissez? Quel est le problème aujourd'hui, fondamentalement, par rapport à cette Afrique connectée, pour vous?
Moi, je pense que l'Afrique connectée, c'est une réalité. Mmh. Et les opérateurs télécoms ou les industriels sautent sur l'opportunité parce qu'il y a un réel besoin, il y a une demande, les gens utilisent. Et comme dit Mme Ounou, il faut des politiques publiques. D'ailleurs, tous les pays africains aujourd'hui, ne serait-ce que de la zone francophone, ont tous des plans dits émergents à l'horizon 2025, dans lesquels Internet est inscrit à lettre d'or, à côté de l'agriculture, le domaine dans lequel nous exerçons. Donc, c'est un problème, à mon avis, de volonté politique avant tout, de privilégier une certaine technologie pour essayer de faire émerger d'autres secteurs de vitaux du pays, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture. Et quand on identifie ça, on est en même d'allouer, comme a dit Mme Owono, des crédits qui sont déjà... prévu pour cela.
J'aimerais qu'on revienne sur ces grands groupes qu'on connaît, Google, Facebook, qui tentent de connecter l'Afrique, comme ils disent. Alors, on a vu que l'un des satellites que voulait envoyer Facebook pour justement connecter l'Afrique avait explosé. Mais pourquoi cet attrait pour le continent africain de ces grands groupes?
Parce que c'est, comme je disais, un continent vierge et que surtout, il y a potentiellement 1 milliard d'utilisateurs. Mmh. Et c'est un terrain vierge, notamment sur la question des données personnelles, c'est-à-dire l'or noir de toutes ces compagnies-là. Si aujourd'hui, la capitalisation boursière de Facebook s'est faite à 100 milliards de dollars, c'est parce que pratiquement toute la Terre utilisent Facebook et donnent des informations qui n'ont pas de prix à Facebook. Mmh. Et que Facebook, pour revendre ensuite, je dis Facebook, mais c'est d'autres, enfin, je veux dire, j'aurais pu citer d'autres. Et aujourd'hui, sur le continent africain, cette question des données personnelles est absolument vierge. Il y a des textes, bien sûr, dans beaucoup de pays africains. Il y a des lois sur la protection des données personnelles qui, elles-mêmes, instituent dans certains cas des commissions de données personnelles, commissions qui sont chargées de réguler la question de la circulation, du traitement des données personnelles. Souvent, ces lois s'inspirent de la loi de 1978 en France, la loi informatique et liberté, qui impose à tout opérateur économique, qui va traiter des données qui appartiennent à un individu, qui permettent d'identifier un individu, impose à ces opérateurs-là de déclarer l'objet du traitement, de déclarer pourquoi ils vont faire le traitement, de déclarer ce qu'ils vont faire des données derrière. Tout ça pour protéger la vie privée, c'est-à-dire un droit fondamental important du citoyen, pour protéger la vie privée du citoyen. Or, aujourd'hui, sur le continent africain, toutes ces entreprises-là, et y compris, d'ailleurs, c'est une question que j'aimerais poser à ceux qui créent des applications, toutes ces entreprises-là, qu'est-ce qu'elles font de ces obligations liées à la vie privée ? Puisque derrière, il n'y a pas forcément un contrôle aussi strict de la part des régulateurs nationaux sur la question des données personnelles et de la vie privée des utilisateurs. Est-ce que dans la construction des produits, dans le design des produits que vous proposez,
est-ce que vous réfléchissez
à la question des données personnelles ? Parce que c'est aujourd'hui l'or noir de beaucoup d'entreprises du numérique, ou en tout cas d'entreprises qui se développent grâce à Internet.
Oui, très bien, je suis à l'aise sur cette question-là. D'abord, je reviens d'abord sur pourquoi l'Afrique, pourquoi les gens vont en Afrique. Mais parce qu'ils appliquent le principe de Warren Buffett qui disait que l'argent, il faut aller le trouver où il est, où il est le plus nombreux, c'est-à-dire chez les pauvres. Il faut appliquer le principe du facteur multiplicateur. Je préfère vendre 1 euro à 1 milliard d'individus que 20 euros à 100 000 personnes.
Oui, on a un grand nombre d'utilisateurs potentiels sur le continent africain.
Voilà. Concernant la protection des données, bon, pour ceux qui concernent Itumba, des autres, je ne peux pas en parler, mais nous, on assure l'étanchéité totale des données, c'est-à-dire que les données n'appartiennent... Le tout, c'est de savoir à qui appartiennent les données. À partir de quel moment il y a un transfert de propriété.
Oui.
Tout est là.
C'est la question.
La question, elle est là. Alors nous, dans notre situation, dans notre cas, nous, les données que nous collectons, qui ne sont pas à caractère personnel, n'appartiennent pas au collecteur. Mais les données à caractère personnel, ça appartient l'utilisateur à un droit de propriété sur ces données-là. C'est-à-dire que leur utilisation doit faire l'objet d'un accord mutuel entre l'individu qui est concerné par ces données-là et la personne qui les utilise. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle données à caractère personnel ? Mais c'est, par exemple, le nom de l'agriculteur, son exploitation, sa production,
donc
etc.
Donc ça, vous ne pouvez pas exploiter ces données-là.
Ma question, c'est bien qu'il y ait un accord. Il y a souvent des accords. D'ailleurs, dès lors qu'on accepte d'utiliser Facebook ou d'autres services, on donne son accord au contrat. Oui. Maintenant, c'est de savoir si le contrat est équilibré. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisateur accepte de donner... de transférer la propriété entière de ces données personnelles, de sorte qu'ensuite l'opérateur économique les revende à un tiers. C'est ça la question fondamentale aujourd'hui. À qui appartiennent les données et est-ce que l'utilisateur a le droit de s'opposer à ce que vous revendiez ces données demain à quelqu'un qui va vous racheter ?
Alexandre Despalières.
Oui, alors c'est très intéressant, mais alors franchement, on a des problèmes ici en France et partout dans le monde avec
ça,
les données.
Oui, ça ne concerne pas que le continent africain, ça c'est certain.
Alors, moi, ce que je trouve intéressant plutôt dans ce débat, c'est de dire, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Non, on le sait. D'abord, c'est trop cher. Il n'y a pas assez d'argent.
Est-ce qu'il est possible ?
L'Afrique tout connectée, 100%.
Oui, pas aujourd'hui, mais
l'Internet gratos et compagnie, non. Parce que tout ça, ce n'est pas gratuit. Facebook, sans vous rendre compte, vous cliquez sur un bouton et vous offrez le droit de partager vos informations. Le problème qu'il faut se poser, c'est, puisque c'est un continent vierge, puisque toutes les infrastructures ne sont pas encore en place. Il y a des problèmes d'XP, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont des points en fait, d'accès pour relier, empêcher que j'envoie un message et ça mette une journée, comme disait cet auditeur.
Pour permettre de...
Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas tous ensemble une réflexion ? Voilà un terrain vierge.
Plus ou moins vierge.
Plus ou moins. Il y a quand même beaucoup d'accès. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une infrastructure un peu plus sécurisées avec des nouveaux protocoles. Le problème des données qu'on partage sur Internet, elles ne sont pas sécurisées. Voilà, ouais, ouais, j'ai compris, il faut que je me taise.
Non, non, mais bon, alors, Charlie, j'allais en prier sur cette question-là. En gros, en fait, il faudrait profiter de ce continent africain et de l'état actuel d'Internet continent pour peut-être réinventer nos rapports aux nouvelles technologies.
Pas profiter, parce que ça voudrait dire qu'on prend...
Oui.
Il faudrait peut-être qu'on fasse une expérience, tiens... Voilà. Et si on faisait différemment ?
Prendre l'Afrique comme laboratoire.
Non, mais une expérience, c'est
non,
génial.
Non, c'est pas un laboratoire. Enfin, moi, j'aime pas le terme expérience. Je pense que c'est vraiment...
Il faudrait
simplement que les personnes soient conscientes des enjeux. Et les personnes, ce sont aussi bien les citoyens que les gouvernants, que les entreprises, tous les acteurs de la construction d'Internet de demain. Parce que ce qui est intéressant avec une révolution comme celle qu'on observe avec le digital, c'est que finalement, tous les acteurs sont au même niveau. Puisque sans les citoyens, vous ne pouvez pas développer de service, vous ne pouvez pas faire d'argent. Et de même manière, nous, on a besoin de ces opérateurs-là pour avoir ces services-là. La question, c'est, il faut redonner, nous, à Internet sans frontières, l'utopie, c'est que tout le monde ait les moyens d'action. Et effectivement, tout le monde a des moyens d'action. Quand on voit que, grâce à une pétition signée par des millions de personnes, on peut influencer une politique, on se dit que c'est de la même manière, si des millions de citoyens africains, des milliards de citoyens africains sont conscients que la question des données personnelles, c'est la question la plus fondamentale de demain, et évidemment, c'est lié à la question de la sécurité... Ça va forcer les opérateurs économiques à eux et les États à faire en sorte que les services qui soient proposés soient respectueux de ces questions-là. C'est la même chose qui s'est fait en Europe. Si aujourd'hui en Europe, on parle d'un règlement qui impose aux opérateurs d'avoir la vie privée par défaut, c'est-à-dire
grâce à la mobilisation des citoyens et on espère qu'elle aura lieu sur le continent africain. Merci à vous, Julie Ono, Alexandre Despalières, Dieudonné, Okala Sosami. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Sophia Bédard, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, comment enseigner le fait religieux à l'école. À demain.
Tous les cinémas du